n'ont pas encore atteint la majorité. Pourtant, ces mineurs étrangers venus de tous les horizons, notamment d'Afghanistan, ont déjà mené un véritable parcours du combattant à la recherche de l'Eldorado que représente pour eux l'Europe. Sur place, la vérité est tout autre. Dans des pays dont ils ne connaissent souvent ni la culture ni la langue, leur insertion sociale n'est qu'une illusion. Ces mineurs sont nombreux à abandonner les centres d'hébergement et à fuguer sans laisser de traces. Ils sont livrés à eux-mêmes dans une Europe où les autorités renoncent trop souvent à les rechercher. Bernard Boéton est le responsable du secteur droit de l'enfant de la Fondation Terre des Hommes. Il nous fait part des résultats alarmants de son enquête, mais il revient tout d'abord sur le profil de ces mineurs.
Bien, ce sont des mineurs étrangers non accompagnés. C'est-à-dire que tous les ans, dans tous les pays d'Europe, à des degrés divers, il y a des jeunes de moins de 18 ans qui arrivent rarement seuls, le plus souvent dans des groupes, mais des groupes dans lesquels il n'y a pas une personne qui a soit l'autorité parentale, soit la responsabilité légale. Et donc, sur le plan strictement juridique, même s'ils arrivent dans un groupe, on les appelle mineurs non accompagnés. En tout cas, il y a un statut juridique précis qui est que, d'après les textes internationaux, lorsque des mineurs arrivent dans un pays, demandent l'asile ou bien sont détectés comme clandestins, l'État a un devoir de protection. On a une obligation de moyens vis-à-vis de ces mineurs, ne serait-ce que par les obligations des instruments juridiques internationaux, comme la Convention des droits de l'enfant, l'article 22, qui dit que les mineurs non accompagnés qui arrivent dans un pays ont les mêmes droits que les enfants du pays. Alors ces enfants, ils viennent de toutes sortes de situations, mais en gros, on peut quand même faire une typologie de deux grandes catégories de situations. D'abord, de situations de conflit, ça peut être l'Afghanistan, ça peut être la Somalie. Ces mineurs-là ont droit à une protection parce qu'ils ont été soit persécutés, soit ils craignent pour leur vie, soit leur famille a été décimée ou des choses comme ça. La deuxième catégorie, c'est hors conflit, si vous voulez, ou hors catastrophe naturelle. Ce sont des mineurs qui ont fui leur pays, qui ont été incités à partir ou qu'on a forcé à partir pour venir en Europe de l'Ouest chercher du travail, pour envoyer de l'argent à la famille. Et là, il y a toutes les formes possibles et imaginables sur le plan psychologique de contrainte, de séduction, d'attractivité ou d'obligation, c'est-à-dire on attire les jeunes pour qu'ils partent, on convainc les parents qui voient un avenir meilleur pour leur enfant que dans leur pays d'origine. Une fois arrivés dans le pays d'accueil, la situation est bien moins drôle. Les trafiquants, lorsqu'il s'agit de trafiquants, et tous ne sont pas trafiqués, enfin, ils n'ont pas d'autre solution que la clandestinité, c'est-à-dire la survie par des formes de criminalité. Dans tous les cas, délinquants ou non, lorsqu'ils sont détectés, l'État, d'après toutes les normes internationales, l'État a un devoir de protection.
Donc ils sont pris en charge par l'État.
Ils sont pris en charge par l'État au sens où le juge, s'il s'agit d'un juge ou une autorité administrative, ça dépend des pays. En tout cas, ce sont des autorités publiques du pays d'accueil qui placent ces enfants dans les institutions. Il y a certains pays qui ont des formules de famille d'accueil, mais c'est extrêmement rare. En tout cas, la plupart sont placés dans des institutions qui sont plus ou moins adaptées. Et notre constat, c'est que le nombre de disparitions, de fugues ou de départs volontaires dépend beaucoup de la capacité de l'institution à s'adapter à ce genre de mineurs.
Quelles sont, justement, les raisons de ces disparitions ?
Bon, je vais forcer le trait un petit peu en vous donnant un cas un peu extrême. Vous imaginez qu'un mineur de 15 ans ou de 16 ans qui est parti d'Afghanistan il y a 8 mois et qui arrive maintenant à Paris ou à Zurich, et qui est détecté, qui est placé par un juge ou par l'autorité administrative dans une institution pour enfants de 8, 10, 12 ans et à qui on dit qu'il doit suivre un règlement intérieur de l'institution, quand en plus on ne lui dit pas qu'est-ce qu'on va faire, ou bien parfois on lui dit que c'est en vue d'une expulsion. De toute évidence, ce gaillard de 16 ou 17 ans, qui a déjà franchi 11 frontières clandestinement, il n'acceptera pas d'être là à attendre dans un règlement qui n'est pas fait du tout pour lui et que personne ne discute avec lui de son projet, de ce dont il rêve à juste titre ou pas, ben ces mineurs disparaissent. Et en général, et alors, ce que notre enquête a révélé, c'est que on peut imaginer que dans des institutions qui accueillent des mineurs comme ça, il y ait des mineurs qui soient particulièrement difficiles, de caractère exceptionnel, qui posent d'énormes problèmes. On peut concevoir qu'il y ait des enfants qui fuguent, qui disparaissent. C'est du bon sens d'imaginer que ça puisse être possible. Mais là, on n'est plus du tout dans les cas exceptionnels, marginaux. On est vraiment dans des pourcentages de disparition. Et ça peut être 20%, 30% ou plus de la moitié dans certains cas.
Et où disparaissent-ils ? Où vont-ils trouver refuge ?
Nous sommes très clairs sur un point, c'est que nous ne voulons pas faire de surenchère sous prétexte qu'on ne sait pas. On ne veut pas s'amuser à peindre le pire, si vous voulez. Et je ne cesse de dire, le pire n'est pas sûr. Mais, puisqu'il y a disparition et que personne ne sait où ils sont, ce qu'ils sont devenus, On peut imaginer que le pire est possible. Et ce qui est le pire dans ce que nous avons découvert, et encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser l'un des quatre pays qu'on a choisi. Dans certaines institutions, on considère que ce ne sont pas des disparitions.
Et c'est quoi alors?
Ah ben, ils disent, après tout, les mineurs, ils sont libres de partir. Notre question, elle est de dire, écoutez, si la fille de mon boulanger disparaît, dans les 12 heures, toutes les polices du pays sont prévenues, les douanes, les médias qui diffusent la photo, etc., etc., ce qui est tout à fait normal. Et les mineurs étrangers non accompagnés qui disparaissent des institutions, tout le monde est soulagé, parce que ça coûte très cher, parce que c'est un travail très difficile, et surtout parce que personne ne va les réclamer.
Alors que pourtant, ils devraient disposer du droit aux protections de l'enfant.
Ils disposent du droit à la protection formelle, si vous voulez, puisqu'ils sont placés dans l'institution. Mais une fois arrivés dans l'institution, on considère que l'action est quasiment terminée. J'exagère, bien sûr. Encore une fois, qu'il y ait 1 ou 5% de mineurs qui disparaissent de ces institutions, c'est presque inévitable. 50%, c'est un scandale.
On parle de chiffres incertains. Alors, comment cela est-il possible? Ces enfants ne sont pas répertoriés?
Ils sont tous répertoriés. Mais ce qu'on a découvert dans l'étude, c'est que ce soit en France ou en Belgique ou en Suisse, et de manière très diverse, on s'est aperçu que, en fait, la procédure, elle est tout simplement, si au bout de 15 jours, par exemple en Belgique, le mineur n'a pas donné signe de vie, eh ben, le dossier est clos. Il a disparu, on n'a pas de nouvelles, donc ben, il n'existe plus. Et j'ai des souvenirs, enfin de cas précis de gens que j'avais entendus, d'assistants sociaux qui s'occupaient de cas comme ça, qui donnaient des rendez-vous à ces mineurs pour continuer le travail, le suivi, l'accompagnement de ces mineurs. Quand un mineur n'est pas venu deux fois à un rendez-vous, l'assistant social informe la tutelle. Bon, ben, il n'est pas venu, puis il est parti. Puis voilà. Et autrement dit, la disparition est une sorte de soulagement. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas reprocher à une institution d'avoir des fugues. On peut reprocher à une institution de s'en satisfaire, de dire que c'est une fatalité ou qu'on est impuissant, mais qu'après tout, c'est pas grave parce que ça coûte trop cher et c'est trop difficile.